5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Orion, le groupe astronomique du Velay, vous propose Chemin de l'espace. C'est l'actualité du ciel de l'espace avec vous, Jean-Michel.
Bonjour.
Bonjour Jean-Michel et bonjour à tous. Donc, ce mois-ci, l'actualité de l'espace est assez riche. Et puis, comme on va le voir, on va parler de la fin de la mission Cassini, de la vue à bord de l'ISS comme chaque mois. Des lancements tout à fait intéressants, en particulier pour le GPS européen, Galileo. Et puis enfin, surtout peut-être, le 30e Congrès international des explorateurs de l'espace à Toulouse. Vous étiez notre envoyé spécial, ramener un certain nombre
de formidables rencontres.
Voilà. Alors pour commencer, dans l'actualité, la fin de la mission Cassini, et cette mission Cassini qui fait un plongeon mortel sur Saturne.
Voilà, alors Cassini-Huygens, donc lancé en 97, 7 ans de voyage avec les assistantes gravitationnelles qu'on a eu l'occasion de parler. On fait un effet de fronde autour des planètes, notamment de la Terre, bien sûr. Et puis, après ces 7 ans de voyage, ça va être 13 ans d'une mission fabuleuse autour de Saturne. 8 milliards de kilomètres parcourus, donc Cassini a scruté l'atmosphère de Saturne, les anneaux, les satellites, et puis bien sûr ce petit module Huygens, qui a été lancé sur Titan.
Et qui a fait un gros travail sur Titan.
Donc dans cet océan de méthane, qui a amené des magnifiques photos juste avant de mourir sur Titan, dans cette atmosphère et ces lacs de méthane. Donc Huygens a vécu très peu de temps, mais Cassini a poursuivi pendant 13 ans sa mission autour de Saturne. Et donc, faute de carburant, on a décidé, fin septembre, plutôt que de heurter des satellites ou autre chose et d'amener peut-être de la pollution autour de cette planète, donc de mettre fin à cette mission.
De la plongée, donc cette plongée dans Saturne. On rappelle que la planète Saturne est une planète gazeuse.
Géante gazeuse.
Et que donc elle s'est enfouie dans les profondeurs.
Elle s'est enfouie dans les profondeurs, voilà.
Voilà, donc c'est un grand voyage, un immense voyage. On a noté que la ligne droite n'était pas le chemin le plus rapide dans l'espace. Et donc une mission réussie.
Ah, mission tout à fait réussie, avec des tas de données recueillies. Et comme disent certains qui travaillent là-dessus, avec tout ce qu'on a recueilli, il nous faudra des années pour décoder tout ça.
Alors, bien moins loin que la sonde Cassini, qui était à plus d'un milliard et demi de kilomètres du Soleil, plus près de nous, l'ISS.
Donc, l'ISS.
Voilà, la vie à bord.
Elle continue. Thomas Pesquet est revenu. Mais il y a actuellement 6 astronautes dans l'ISS qui continuent la mission de cette merveilleuse station depuis un peu plus de 17 ans.
Donc, il y a eu un lancement pour ravitailler, effectivement, l'équipage, qui a été lancé par une fusée, un cargo Progress.
C'est avec un dérivé d'une fusée Soyouz russe. Donc, on a amené des vivres, de la nourriture, bien sûr, de l'eau, du carburant, de l'oxygène, pour que ces astronautes qui sont en orbite à 400 km au-dessus de nos têtes aient de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens.
Donc, 6 équipiers, l'étude scientifique continue, les expériences perdurent. Prolonge celle de Thomas Pesquet.
Oui, notamment, je pense à Paolo Nespoli, qui est à sa 3e mission. Donc, c'est un peu un vétéran de l'espace, qui connaît bien cette station. Paolo Nespoli, astronaute italien.
Alors, il y a également un Russe parmi ses 6 équipiers qui s'appelle Ryazansky.
Sergei Ryazansky.
Voilà, et qui nous envoie des photos particulièrement performantes.
Alors, je tenais à le dire, puisqu'on a vu les très belles photos de Thomas Pesquet qui les a communiquées, notamment sur tous les réseaux sociaux. Mais Ryazansky fait d'excellentes photos, de très très belles images qu'on peut trouver en ligne sur les sites de l'ESA, de la NASA ou de l'agence russe Roscosmos, et vraiment de clichés fabuleux de notre planète Terre.
Alors, ce sont des photos particulièrement avec une forte définition ou au contraire, ça toujours, utilise des techniques toujours, nouvelles
Non, toujours les mêmes outils. Hein, toujours les mêmes outils, bon, avec des boîtiers réflexes performants dont on tire la marque, mais qui, notamment, je pense qu'il a fait des photos de l'Himalaya, je pense à une photo des télescopes d'Hawaï, donc vraiment des images qui méritent d'avoir dans sa bibliothèque, qu'on peut très facilement télécharger.
Donc ça travaille bien dans l'ISS
Ça travaille, ça continue.
Nous allons parler maintenant des lancements du mois, enfin les plus importants, les récents. Il y en a un qui est lancé par une fusée
Rokot,
une fusée russe,
oui.
Qui nous lance un satellite de Sentinel-5.
Sentinel, c'est le réseau Sentinel de tous ces satellites,
voilà.
Hein, donc du programme de l'espace spatial européen. Donc ce cinquième Sentinel est parti donc de la base de Plesetsk, c'est au nord de la Baltique, une base russe. Alors tout simplement pour une orbite très au nord, bien sûr, hein, et sur une orbite polaire. Donc tout ça pour étudier l'atmosphère de la Terre avec des tas d'appareillages pour étudier la couche d'ozone, vraiment voir un peu comment se comporte notre atmosphère terrestre.
Très bien. Donc sur une orbite effectivement qui est polaire.
Voilà.
Il y a peu de lancements. La plupart des lancements se font d'est en ouest, d'ouest en est.
Oui, mais il y en a quand même. Bon, des fois on en parle peut-être pas assez souvent.
Oui,
il y en a beaucoup parce que.
C'est vrai que je le souligne. Il y a peu de lancements.
Mais, j'ai envie de vous répondre que ça tourne dans tous les sens.
Voilà. C'est vrai qu'il y en a beaucoup là-haut. Deuxième lancement. Donc là, c'est Ariane qui était à l'œuvre.
Qui va être à l'œuvre, pardon,
et qui s'apprête effectivement à lancer. Un satellite Galileo.
Alors, on en est actuellement, si mes souvenirs sont bons, le compte est bon, on a 18, on devrait passer à 22.
À 22, et on rappelle qu'il en faut à peu près 36 pour être...
Pour vraiment tout cartographier. Alors, pourquoi ? Normalement, c'est 24, mais on passe sur 30, parce qu'il peut en tomber en panne, d'ailleurs, c'est arrivé. Hein. Mm-hmm. Donc, pour avoir de la sécurité, et pour avoir notre autonomie en matière de géolocalisation européenne, donc ça sera notre outil européen, nous, on ne sera plus dépendant ni des Russes, ni des Américains.
Donc avec 18 satellites et bientôt 22, on atteint pratiquement ça commence à devenir très fonctionnel.
Oui.
Et on peut dire qu'on commence à garantir une certaine autonomie, en tous les cas européenne.
Oui, on commence à avoir cette autonomie européenne. Donc au niveau du grand public, parce que c'est ça qui nous intéresse, déjà dans les nouveaux smartphones qui viennent de sortir, on peut télécharger cette application Galileo pour avoir la géolocalisation.
D'accord. Donc voilà, à vos portables, à vos applications.
Oui, parce qu'aujourd'hui, je crois que le téléphone portable qu'on a dans sa poche, c'est vraiment un outil au quotidien qui, grâce aux satellites, il faut le rappeler, nous apporte des tas de possibilités.
Est-ce que l'on attend ou on peut attendre, j'allais dire, des perfections, des améliorations sensibles dans l'utilisation du GPS européen, de Galileo ?
Certainement une précision, on l'a déjà quand même, hein, parce qu'il faut dire que si on parle du GPS américain, les Américains nous le proposent sous une certaine façon, mais on a toutes les relais d'autres satellites, donc avec le GMS, donc les stations au sol, d'autres satellites qui vont nous affiner ce signal.
D'accord. On rappelle que dans les programmes de géolocalisation, il y a également les Chinois.
Alors le Peitu, hein, c'est le système chinois.
Et puis les Indiens peut-être qui travaillent.
Alors, il y a les Indiens aussi, ils ont l'INRSS, oui, donc c'est leur petit système à eux, mais qui ne cartographie pas encore la Terre. Hein.
Donc on comprend là qu'il y a un enjeu là,
d'indépendance.
Il y a un enjeu commercial sans doute.
Commercial, mais aussi de protection économique.
Peut-être, oui. Oui. Donc voilà, ces deux lancements un petit peu remarquables avec Sentinel-5 pour l'atmosphère et Galileo pour nos communications et notre GPS européen. C'était donc le 30e congrès international des explorateurs de l'espace. C'est un nouveau vocable pour...
C'est un nouveau vocable parce que, bon, ils ont discuté beaucoup entre eux. Alors, on parle des astronautes, des cosmonautes, des taïkonautes. On a mis tout le monde d'accord sur les spationautes.
Oui. Hein,
mais je crois que le terme qu'ils revendiquent, pour l'avoir entendu de la bouche de plusieurs d'entre eux, c'est « nous sommes les explorateurs de l'espace ».
Voilà. Donc ça, c'est un petit peu leur point de vue. C'est pas,
voilà.
C'est pas marketing, c'est leur volonté
c'est
d'apparaître
oui,
comme
oui,
ça. Ils
oui,
se
oui.
ressentent en tout cas comme explorateur de l'espace. C'est vrai que l'espace, c'est l'aventure, c'est l'exploration
tout à fait.
De notre siècle. Alors ça s'est passé à Toulouse.
Du 16 au 20 octobre.
Du 16 au 20 octobre, donc il y a eu le temps effectivement de la rencontre.
Alors effectivement, même si c'est un congrès privé, bon, j'ai eu la chance de participer notamment à une fabuleuse rencontre avec trois personnages importants.
Oui, parce que Jean-Michel, vous étiez notre envoyé spécial de RCF Orion Chemin de l'Espace pendant ces 4-5 jours à Toulouse et vous avez rencontré du beau monde.
Oui.
Vous nous avez inondé de photos, dommage que la radio ça puisse pas passer, mais on vous voit pratiquement avec tout le Westwood de l'espace.
Pas tout à fait quand même.
Enfin voilà, il y a quand même quelques célébrités. Alors on ne peut pas évoquer toutes vos rencontres et tous les explorateurs de l'espace qui étaient à Toulouse, mais j'ai choisi de parler de trois d'entre eux. Le premier, c'est un soviétique, il s'appelle Oleg Atkov.
Oui.
Alors lui, d'abord, vous allez nous rappeler effectivement ce qu'il a fait, mais nous parler aussi peut-être de son enfance.
Alors des vols qu'il a pu faire notamment sur les stations Salyut, hein, parce que on parle de l'ISS, mais avant il y a eu Mir, hein, et puis les Russes ont eu toutes ces stations Salyut avec beaucoup de péripéties. Donc il faudra faire une émission là-dessus spéciale pour parler de tout ça parce que
c'est promis.
C'était très long. Hein. Donc et cet homme-là qui a donc un parcours de cosmonaute, on va dire, bon, du terme qu'on utilise autrefois, et il nous a raconté une petite anecdote intéressante lorsqu'il était enfant. Donc son père travaillait dans l'usine qui a fabriqué Spoutnik, et son père lui a montré le matin, un jour lui a dit, regarde, tu vois cet objet-là, on le verra bientôt en haut. Et donc je crois que c'est émouvant, parce que Spoutnik, il y a 60 ans, on a fêté ça le 4 octobre 57, et entendre ce personnage remettre ouais. en mémoire
57, c'est quand il a volé, c'est
voilà.
quand il est parti,
voilà.
mais on y travaillait peut-être depuis
oui.
10 ou 15
mais
ans
d'entendre de la bouche de cet homme ce témoignage, c'était assez émouvant, quoi.
Donc lui, tout a commencé effectivement à côté de son père dans l'usine de Spoutnik.
Voilà.
Et un jour, il s'est retrouvé, pas dans Spoutnik, mais dans
il s'est retrouvé dans les sélections de cosmonautes russes, et puis a fait plusieurs vols, comme j'ai dit, à bord des stations Spaliut, voilà, et Soyuz.
Et il a fait plusieurs vols
Voilà, alors ils ont tous les gens qui étaient à Toulouse ont fait plusieurs vols. Bon, quelques-uns ont fait des vols très courts, hein, mais bon, la plupart, une fois qu'ils y sont allés, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y retourner.
Donc là, on parlait de Oleg Atkov. Un deuxième personnage, alors là, ou en couleur, c'est Bruce McCandless.
Alors là, c'est une rencontre fabuleuse, hein, parce que on se souvient, nous sommes le 12
Donc,
février.
Donc Bruce McCandless, c'est un Américain,
oui,
hein, et qui a volé entre guillemets. Donc dans.
Alors je crois que c'est le premier homme satellite.
Voilà.
Nous sommes le 12 février 1984. La navette spatiale est en orbite autour de la Terre. Et là, Bruce McCandless va s'asseoir sur son MMU, Multi Moving Unity. Il va s'asseoir, il va s'éloigner à 100 mètres à peu près de la navette. Ça a été fait une fois, ça n'a pas été renouvelé parce que, bon, il y a eu quelques petits incidents. Je pense que cet homme-là qui a contemplé tout seul la Terre à 400 km au-dessus de nos têtes, il a vu des choses extraordinaires. Il a pu revenir à l'intérieur de la navette spatiale, heureusement. Il nous a dit que ce qu'on ne parle pas beaucoup, c'est qu'il a eu très très froid. Il a été obligé de déconnecter le système de refroidissement avec l'autorisation du sol, parce que les astronautes ne font rien sans l'autorisation du sol. Il a fallu quand même qu'il insiste beaucoup parce qu'il claquait des dents. Et puis bon, il a réussi en bougeant à se réchauffer. Et donc voilà, ça fait partie des petites anecdotes spatiales, hein, que les astronautes aiment bien raconter. Et son plus beau souvenir, ça sera surtout le travail sur Hubble.
Alors, un mot auparavant sur ce MFU.
MMU, hein.
Ouais, MNU, qui est en fait un fauteuil, qui est un fauteuil véhicule.
C'est un fauteuil véhicule.
Là, on est en plein Hollywood, c'est des alors, images de cinéma.
C'est pas Gravity, hein. On a eu l'occasion d'en parler, on a bien rigolé d'ailleurs. Ouais. Hein, mais bon, c'était Gravity en vrai, donc, et très sérieusement, quoi.
Donc, ce fauteuil n'est relié à rien. Il quitte la station et il va se mouvoir effectivement dans les alentours, mais sans aucune relation physique.
Rien. Voilà.
Donc là, c'est l'aventure dans l'aventure.
C'est vraiment l'explorateur de l'espace à tous les niveaux. Et puis, c'est le seul qui l'a fait. Hein, et s'éloigner à 100 mètres comme ça donc d'un vaisseau spatial, c'est le premier homme satellite.
Bruce McCandless, donc le premier à se mouvoir en fauteuil dans l'espace, a aussi connu, enfin, pour ses travaux sur Hubble.
Voilà, alors donc
sur le télescope Hubble.
Télescope Hubble, donc lancé il y a 27 ans. Hein. Donc ce télescope qui a eu dès le début des soucis, il était myope, hein, comme on dit couramment.
Le télescope.
Hein. Donc il a fallu monter le réparer deux fois. Et notamment, McCandless nous dit que c'est son plus beau souvenir d'avoir travaillé sur Hubble.
Voilà, parce que ce télescope, effectivement, avait été lancé, tout était prévu, tout avait été vérifié, puis en fait, une fois positionné, il s'est avéré que, oui, il y avait quelques petits problèmes d'optique, et donc ça fait l'objet des premiers, enfin, c'était peut-être pas tout fait les premiers dépannages, mais en tous les cas, c'était une sacrée opération de maintenance.
Il y a eu deux opérations de maintenance.
Voilà, que de s'approcher et de travailler sur... Donc, alors, McCandless a été un de ses artisans.
Voilà, alors là aussi, donc, on n'est plus à 400 km, on est presque à 700 km, donc on est très très haut, les hommes qui sont sortis là-haut, donc plusieurs sont sortis dans l'espace pour réparer ce télescope, et c'est là aussi une aventure extraordinaire pour ces explorateurs.
Voilà, donc vous avez pu communiquer avec lui, vous avez pu échanger
Pendant une petite heure, il y avait trois astronautes, là on a pu passer un moment, on n'était pas très nombreux, donc c'est un moment vraiment privilégié, c'est certainement un de mes plus beaux souvenirs hein, de cette rencontre, et donc de pouvoir poser les questions qu'on voulait, et avec des gens excessivement agréables, excessivement simples.
Il y avait combien d'explorateurs de l'espace, finalement?
Alors, au niveau du congrès, c'était plus d'une centaine.
Alors après Oleg Atkov, le Russe, Bruce McCandless, l'Américain, un Européen et un Français, Jean-François Clairvoy.
Ah ben toujours très très agréable.
Alors Jean-François Clairvoy, c'est un des astronautes français, un des 10 astronautes français. Il est aussi connu pour avoir mis au point les vols 0G.
Alors actuellement, donc, il travaille sur Bordeaux, donc il fait des vols paraboliques, donc, où on va créer des situations d'apesanteur.
Donc ce sont des vols sur des avions hein,
Sur un avion à 330, je crois, actuellement, ou 320, je me rappelle. Ouais.
Bon, enfin, on reste donc, européen.
Voilà, et donc cet avion va monter vraiment d'un coup en flèche et va replonger, va faire ce qu'on appelle une parabole. Et pendant quelques instants de cette parabole, les hommes qui sont à l'intérieur sont en situation d'apesanteur ou d'impesanteur.
Oui, d'accord. Enfin,
donc, il y a un petit signal sonore qui retentit. Donc, allez, vous pouvez voler. Hein. Et puis, un petit signal qui retentit aussi. Attention, c'est fini. Parce que là, accrochez-vous au filet sur les côtés. Sinon, vous risquez de tomber, de vous faire mal.
Voilà, donc c'est un échantillon. Si voilà. Ça plaît, eh bien, donc, il faut faire la formation.
Cet avion tourne tous les jours hein, pour les astronautes, pour des scientifiques. Il y a des tas d'expériences qui sont faites. Voilà.
Et donc des touristes, entre guillemets
Alors, effectivement, le ticket est quand même cher, hein, puisqu'il est aux alentours de 6 000 euros avec une visite médicale. Mais bon, pourquoi pas.
6 000 euros, un petit vol 0G avec Jean-François Clairvoy. Alors, là, vous avez passé pas mal de temps avec lui, parce que Jean-François Clairvoy vient de sortir un livre dont il nous parle, d'ailleurs.
Oui.
Grâce à vous, Jean-Michel, eh bien, on l'écoute.
Jean-François Clairvoy, bonjour. À l'occasion de la sortie de votre nouveau livre et du Congrès mondial des astronautes à Toulouse, vous pouvez nous dire deux mots sur ce livre ?
Alors, Histoire de la conquête spatiale, qu'on a écrit à deux avec un ami Franck Léo, qui est instructeur en vol parabolique et aussi médecin. On a voulu faire de ce livre, sous forme d'almanach, un historique de tous les événements clés dans l'histoire des vols habités spatiaux. Et pour chaque événement, il y a deux pages consacrées. À gauche, c'est le texte et quelques photos, et à droite, que des photos. Et c'est parcouru aussi d'encarts qui sont pas liés à l'histoire, mais régulièrement, vous avez une photo en double page avec un petit texte qui répond aux questions classiques qu'on pose aux astronautes. Comment on devient astronaute? Pourquoi explorer l'espace? Le risque et le danger? Pourquoi on grandit? Pourquoi faut faire du sport? Comment on se prépare? Comment on s'habitue au retour à la gravité terrestre? Quelle est la différence entre les films dans l'espace et la réalité? Voilà, donc c'est un film qui raconte des histoires. Très facile à lire, on peut lire où on veut. On veut voir la période ISS, la période Apollo. Il y a aussi une prospective sur l'avenir, donc quelques chapitres dédiés aux 10 années, 100 années, millénaires qui viennent. Donc ça termine par des idées sérieuses, mais qui sont encore de la science-fiction aujourd'hui. Voilà, donc c'est un livre très très sympa à lire, très imagé et qui vous évade un petit peu.
Voilà, merci. Donc je me souviens aussi d'un précédent livre où vous disiez on m'a injecté toutes sortes de produits pour accélérer le cœur, pour ralentir le cœur.
Oui, lors de la sélection, on nous teste sous toutes les coutures. Ça dure 5 jours, toute une semaine, du matin au soir. Et je me souviens que pour le cœur, j'ai fait des radios, des échographies, même un phonocardiogramme, donc avec un appareil spécialisé dans l'écoute du bruit du cœur. Et puis pour l'étudier dans des conditions précises de rythme cardiaque différent du rythme normal, on m'avait injecté un produit en prévenant à l'avance que j'allais me ressentir devenir un peu froid. C'est un produit qui ralentissait le cœur, donc ça faisait boum, 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 boum. Ça fait bizarre. Et à contrario, on m'a injecté aussi des produits qui l'accéléraient. Et là, on m'avait prévenu que j'allais me sentir devenir tout chaud aux extrémités, aux muqueuses. Mais tant qu'on est prévenu, ça va. Voilà.
Bien, Jean-François, que vous remercie. Et puis, finissez bien ce congrès, 30e congrès mondial des astronautes à Toulouse.
Merci beaucoup et merci de votre passage.
Eh bien, Jean-Michel, voilà deux livres à recommander peut-être pour les fêtes de Noël.
Oui, donc, alors je précise que Franck Léo aussi, c'est un médecin spatial, comme l'a dit Jean-François Clairvoy. Et donc, j'avais assisté il y a quelques années à une de ses conférences donc, sur la médecine spatiale.
Voilà, donc les enfants, vous n'avez peut-être pas tous l'usine Sputnik à côté de vous, mais vous avez une bibliographie qui vous permet de rêver en tout cas l'espace et peut-être de devenir bientôt, un jour, explorateur de l'espace.
Pourquoi pas ?
Bravo donc pour ce reportage. Et notre ami Thomas Pesquet dans
Alors, Thomas
ça.
Pesquet, ben, il était présent tout à fait au début du congrès, hein, dimanche et lundi, mais donc compte tenu de son emploi du temps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a qui sont présents à ces congrès, mais il y en a qui volent, il y en a qui sont en formation. Donc Thomas Pesquet est parti notamment à Houston aux États-Unis.
Bien. Votre meilleur souvenir, finalement, c'est beaucoup d'émotions, toutes ces
beaucoup
rencontres.
Beaucoup d'émotions, oui. Puis je me souviens du vendredi où il y avait trois rencontres, une pour les Russes, une pour les Américains, une pour les Européens. Et tous ces gens-là sont arrivés, ils sont passés devant nous, on a pu faire quelques photos. C'est un moment important. Mais bon, je crois que le souvenir que je garderai, d'abord par sa chaleureuse coopération, c'est Bruce McCandless.
Ah, quand même, oui.
Ah oui, parce que c'est un homme extraordinaire, un explorateur.
Il est devenu effectivement très simple, il parle de ça facilement.
Très simple, voilà. Puis bon, on a fait la photo, hein, je veux dire, et il était très très agréable, prenant le temps de pouvoir faire la photo. C'était, voilà,
bien,
c'est un bon souvenir.
Enfin, on est ravis pour vous, Jean-Michel. Donc je pense qu'il vous reste à travailler le russe, à vous améliorer en anglais, peut-être
alors,
le chinois.
Une chose que je peux dire simplement, surtout à nos jeunes auditeurs, maîtrisez l'anglais, apprenez-le, c'est vraiment un passe-partout.
Bien, écoutez, voilà, le message est transmis. Merci Jean-Michel. Bientôt sur nos ondes avec nos amis d'Orion. Hein, je rappelle effectivement que cette émission est proposée par le groupe d'astronomie du Velay, le groupe Orion. Au revoir à tous. Merci Jean-Michel.
Oui,
et au mois prochain.
Au mois prochain.
5, 4, 3, 2, 1. Top. Allumage Vulcain. Décollage.